Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. L'épisode est aujourd'hui consacré à Martial, médecin généraliste et cofondateur de l'association Médecins Solidaires, qui propose une solution aux déserts médicaux sur le principe du demander peu à beaucoup. Martial nous explique le fonctionnement de ces centres et comment il en est arrivé à leur création, après un tour de France en camping-car des remplacements en déserts médicaux, comment, en fait, il a réfléchi une nouvelle organisation des soins primaires. Avec Martial, nous avons parlé de choisir deux fois de faire médecine, de faire de l'impro pour apprendre à écouter, et bien sûr, d'entrepreneuriat associatif. Bonne écoute. Bonjour Martial.
Bonjour Annelise.
Bienvenue à La Consulte, et pour commencer, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites ?
Alors moi j'ai 32 ans, je m'appelle Martial, je suis médecin généraliste, et je suis installé en Haute-Vienne, dans un village du nord de la Haute-Vienne qui s'appelle Le Dora, en médecine libérale, et je suis aussi le cofondateur d'une association qui s'appelle Médecins Solidaires.
Ben écoute, je te propose qu'on commence par ça. C'est quoi cette association Médecins Solidaires ?
Médecins Solidaires, c'est une association à but non lucratif, c'est un collectif de médecins généralistes qui est en train de se former avec une idée de fond qui est qu'on ne peut pas rester impassible devant ce drame humain que sont les déserts médicaux et que nous, médecins généralistes, nous avons le mandat de nous convoquer mutuellement et de proposer peut-être une organisation un petit peu différente. Et donc on dit, bah, puisqu'on peut pas demander beaucoup à peu, visiblement ça ne marche pas, on peut essayer l'inverse, c'est-à-dire de demander peu mais à beaucoup. Et donc on propose à des médecins généralistes qui le souhaitent et puis qui le peuvent, de consacrer une semaine de leur agenda médical dans l'année pour venir contribuer au fonctionnement de centres médicaux installés dans des territoires isolés.
Alors, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment fonctionnent ces centres en territoire isolé ?
Donc, ce sont des centres médicaux. Pour l'instant, on en a deux. Donc, c'est le cadre réglementaire d'un centre de santé. Ce qui est très important, c'est qu'il y a dans ce centre au moins une coordinatrice en permanence qui tient la boutique. C'est elle qui répond au téléphone, qui remplit l'agenda, qui passe la carte vitale, qui récupère les honoraires, qui gère le matériel, qui s'occupe de l'ouverture, de la fermeture, bref, qui vraiment tient la boutique. Et le médecin, lui, il vient juste faire de la médecine dans un cadre d'exercice serein, en faisant 3 consultations par heure et en prenant même 40 minutes pour l'ouverture des dossiers de patients porteurs de pathologies chroniques, des dossiers lourds. Et les patients sont au courant que c'est ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est pas un mode de fonctionnement dégradé, c'est pas il y a un médecin en temps normal à plein temps et puis quand il est pas là, on passe en mode dégradé. Non, c'est le fonctionnement permanent du centre, c'est que chaque semaine le médecin est différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que on s'est rendu compte que les patients, ils adhéraient pleinement à ce système-là et que en termes de qualité des soins, on était moi j'étais assez bluffé, honnêtement, c'est assez étonnant parce que les médecins s'installent une forme d'évaluation par les pairs assez spontanée et positive et bienveillante qui fait que comme chaque médecin sait que ce qu'il va écrire sera relu, comme il sait que va devoir passer le relais à un autre confrère ou à une autre consoeur, il va vraiment tirer le meilleur de lui-même pour être compris dans son raisonnement et pour que le médecin qui vient après lui sache quoi faire. Et les patients sont assez heureux d'être écoutés à chaque fois pendant 20 minutes avec un médecin qui remet de l'énergie dans leur dossier et ils bénéficient de ces regards croisés. Et quand ils se disent au bout de 4 consultations différentes que leur ordonnance a été validée à 4 reprises, qu'il lui a été posé la question du dépistage ou de ses vaccinations, etc., il se sent bien pris en charge. Donc, c'est très intéressant. Et alors, ces médecins-là, on leur prend en charge leurs frais de transport, on leur met un logement à disposition qu'on prend en charge et on leur met un véhicule à disposition sur place pour qu'ils puissent venir en train et faire quand même les visites à domicile.
Et alors, spontanément, la question qui vient, ça, financièrement, est-ce que ça ne tient que avec les consultations à, pour l'instant, 25 euros des médecins généralistes? Il y a des fonds qui viennent d'ailleurs? Comment ça marche?
Alors, on est dans un modèle économique qui est pas simple, parce qu'effectivement, avec la valeur de l'acte actuel, il est difficile de tenir un équilibre. On a pour nous quand même l'impératif de le tenir parce que il serait déraisonnable de vouloir déployer un projet déficitaire sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est pas de creuser un trou sans fond, il y en a déjà bien assez. Et donc, ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a deux acteurs qui permettent l'équilibre de ce modèle économique. Ce sont d'une part les communes qui acceptent de porter les charges immobilières, c'est-à-dire que c'est elles qui payent le loyer, qui payent quand il y en a un, qui payent la structure, qui payent ce qu'on appelle les fluides, l'électricité, l'eau, le gaz, le cas échéant, etc. Et puis le deuxième acteur, bien sûr, ce sont les médecins qui acceptent une rémunération moindre pour un travail conséquent, puisqu'ils sont rémunérés 1 000 euros net par semaine, ce qui est moins que ce qu'ils pourraient être rémunérés ailleurs. Et grâce à ces deux acteurs qui acceptent, entre guillemets, de participer économiquement au projet, on arrive à tenir l'équilibre, ce qui nous permet du coup de pouvoir nous déployer.
Et l'autre question que je me pose, c'est quelle est la liberté du médecin ? Parce que du coup, ce sont des libéraux qui viennent ?
Mais oui.
Ouais, pas forcément, parce que j'imagine toujours moi la médecine générale libérale comme ayant cet énorme avantage d'avoir la liberté de faire son emploi du temps. Et comment ça se passe là pour le médecin libéral qui vient une semaine dans un centre ? Est-ce qu'il a cette liberté de faire son emploi du temps ou pendant une semaine, son emploi du temps, il est contraint par le fonctionnement et les horaires du centre ?
Alors nous, il est peut-être libéral à la base, mais quand il vient dans le centre, il est salarié. Donc évidemment, c'est nous qui faisons son emploi du temps. Ah, bah, sinon, ce serait ingérable. Hein, si la semaine 1, t'as Gérard qui dit « moi, je veux faire 8h midi, 15h, 20h », puis la semaine 2, t'as Geneviève qui dit « bah moi, je vais faire 10h, 13h, et puis 16h, 18h », c'est pas gérable. Pour les coordinatrices, pour les patients. Donc, il y a un cadre et les médecins s'insèrent dans ce cadre. Et puis, on a la difficulté, effectivement, de trouver une médiane de fonctionnement. Il faut être en même temps dans un projet qui va convenir à la médecin retraitée qui est habituée à faire des heures à rallonge et qui est là pour bosser, qui a la valeur travail très ancrée et qui veut absolument être présente de 7h à 21h, et puis être aussi acceptable pour le médecin qui est d'une jeune génération, dans un temps un peu différent et qui a l'habitude de travailler peut-être moins ou de manière en tout cas plus dilatée dans le temps. Et donc, c'est trouver cette médiane de fonctionnement. Donc, on a considéré que 3 consultations par heure, ça allait à tout le monde.
Ok. Ça fonctionne. Y a des médecins qui sont volontaires pour venir. Ça marche ?
Bah, écoute, oui, ça fonctionne. Et c'est une grande joie parce que c'était ça le pari humain du départ. Moi, j'ai la conviction profonde que les médecins généralistes ne le sont pas devenus par hasard. Quand tu deviens médecin généraliste, enfin médecin et médecin généraliste en particulier, je pense, tu as quand même une fibre humaniste, un souci de la souffrance des autres et une envie d'aider, de contribuer au bien-être et au bien commun. Donc, j'avais la conviction qu'il y a des tas de médecins qui seraient en capacité de répondre oui si on leur fournissait un véhicule adapté. Et aujourd'hui, on a 200 médecins qui sont engagés dans notre collectif, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'entretien de recrutement et qu'on dit « bah oui, moi, je veux le faire ». Et pour l'instant, on a, sur ces 200 médecins, on en a 60 qui sont passés de manière effective dans nos centres. Ça veut dire que le premier centre qui a ouvert à côté de Guéret, dans une petite commune qui s'appelle Agen, A-J-I-N, il y a eu, depuis le 31 octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui, 42 médecins, je crois, qui se sont succédés. Il y en a qui sont revenus plusieurs fois. On a fermé juste une semaine à Noël entre Noël et le 1er janvier parce qu'on voulait laisser des vacances à nos coordinatrices et puis on s'est dit que ce serait peut-être un peu difficile de trouver un médecin à cette période-là et puis une semaine la semaine du 15 août, mais on n'a pas eu une seule semaine de défaillance. C'est-à-dire que sur l'année, le centre a été fermé juste 2 semaines parce qu'on l'avait décidé, mais les deux fois, c'est arrivé deux fois dans l'année où on a eu au dernier moment quasiment un médecin qui a fait entre guillemets défaut parce que il y avait soit un décès dans la famille, soit une complication majeure qui rendait son remplacement, enfin sa présence impossible. Les deux fois, on a trouvé une solution au pied levé, parce que c'est la force du collectif. Quand tu demandes à 200 médecins, est-ce que l'un d'entre vous serait disponible après-demain pour une semaine en Creuse, bah t'as une chance quand même non nulle qu'il y en ait un qui soit disponible. Et donc c'est super parce que ça montre la force du modèle. Et donc on a ouvert un deuxième centre le 19 juin à Bellegarde-en-Marche en Creuse avec deux médecins. Donc on a actuellement trois médecins toutes les semaines qui viennent en Creuse grâce à l'association Médecins Solidaires. Et on va ouvrir un troisième centre probablement tout début 2024 dans un autre département. Et on a d'autres dossiers qui sont en train d'être travaillés.
Alors, moi, j'aimerais bien comprendre dans ton parcours comment t'en es arrivé justement à la création de Médecins Solidaires, et j'aimerais aussi comprendre comment ça s'articule aujourd'hui dans ta pratique médicale à toi. Et donc, je te propose de remonter un petit peu le temps et pourquoi toi, t'as choisi de faire médecine ?
Alors moi, j'ai un rapport à la médecine qui est assez privilégié puisque mon père a été médecin généraliste pendant 40 ans. Donc j'ai, pour moi, la médecine a toujours quelque part fait partie de mon champ visuel. J'étais évidemment, comme beaucoup d'enfants, j'imagine, très admiratif de mon père et de ces départs inopinés qu'il pouvait avoir dans des repas de famille pour aller sauver le monde. En tout cas, c'était ma perception. Mais j'ai eu beaucoup d'autres envies professionnelles pendant mon collège ou mon lycée. Je suis passé un peu par plein de phases. J'ai voulu être commissaire de police, cuisinier, avocat, comédien. Et au final, je me souviens très nettement d'un déclic en première quand j'étais en cours d'SVT, au moment du cours sur le diabète où le prof faisait du coup le schéma au tableau du diabète, de tous les rétrocontrôles entre l'insuline, le glucagon. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je me suis dit, mais cette machine humaine est extraordinaire. Et j'ai eu vraiment là un déclic. Je me suis dit, mais moi, je veux faire ça. Je ne peux pas considérer le reste de ma vie sans en savoir plus sur cette machine humaine. Et donc, j'ai fait des études de médecine avec beaucoup de joie d'apprendre et de connaître.
Tu disais tout à l'heure que tu étais installé en Haute-Vienne. Tu viens d'un territoire rural, un désert médical. Déjà ou pas du tout?
Oui, c'était un territoire, c'est toujours, ouais, un territoire rural à une heure de Limoges, une heure de Poitiers, un peu au milieu des deux, nord de la Haute-Vienne, Limousin, pleine diagonale du vide. On est clairement dans un désert médical. Mais mon père, pour lui rendre cet hommage, dans ce désert médical, mon père qui a toujours été très très avant-gardiste, a été à l'origine de quasiment la première maison de santé du département, si pas la première peut-être. Et donc aujourd'hui, dans mon village, Odora, on a une maison de santé dans laquelle on est 5 médecins, alors que dans toutes les communes autour, c'est la catastrophe. Donc j'ai peut-être eu, grâce à lui, une vision assez nette de la médecine qui va vers l'avant, qui essaye de dire non pas... on peut plus prendre de nouveaux patients, mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir continuer d'en prendre ? Qui est pas tout à fait la même question.
Et en première terminale, quand tu fais ton choix d'orientation, est-ce que tu as déjà conscience des problématiques de démographie médicale qui existent ?
Non. Non, pas du tout. Ça ne m'apparaît pas comme un problème, ça ne m'apparaît pas comme quelque chose qui me concerne particulièrement. Je pars pas avec l'idée d'être forcément médecin généraliste. J'ai pas tellement d'idées préconçues. Je m'engage dans des études de médecine parce que ça m'intéresse, mais je suis lycéen et bien loin de ces sujets.
Donc, t'es lycéen, t'es passionné, t'as envie de découvrir le fonctionnement du corps humain, t'as envie de comprendre. Et puis, t'as un modèle quand même de médecin qui est ton père, qui est heureux dans son exercice et qui n'a pas en tout cas un exercice isolé.
C'est ça, qui n'a pas un exercice isolé et puis qui... qui était un peu un râleur aussi, mon père, hein, donc il n'était pas non plus, tu vois, c'est pas le médecin qui rentrait forcément transcendé, mais chez qui il y avait quand même, qu'il y a toujours une humanité profonde, et j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour ce sens de l'autre qu'il a, et qui me paraît être une valeur morale assez extraordinaire.
Il est toujours en exercice actuellement ?
Non, il a pris sa retraite il y a 2 ans, et donc maintenant c'est un retraité heureux.
Et alors, t'es quel genre d'étudiant, toi, fêtard, qui va pas en cours, hyper investi ? Comment ça se passe, les études, pour toi ? Est-ce que t'es épanoui pendant tes études de médecine ?
Alors, bah, moi, j'ai une histoire particulière parce que j'ai... moi, c'est l'époque de la PCEM1 et je n'ai pas... je redouble ma première année et sur la deuxième première année, je n'ai pas médecine, mais j'ai dentaire. Et donc, j'apprends à ce moment-là que je ne serai pas médecin et je vais donc en chirurgie dentaire à Clermont-Ferrand pendant 2 ans. C'est un peu un drame dans ma vie, mais je suis assez résilient. Et du coup, je me dis, bon, bah, je suis peut-être fait pour devenir dentiste. Et puis, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser. Je suis un élève médiocre. Je n'assiste pas beaucoup aux cours. J'ai beaucoup de rattrapage. Ça me passionne pas. Je commence à envisager d'autres perspectives professionnelles. Et puis, c'est le moment de la réforme de la PACES, où au moment où il réforme la PACES, il décide de mettre en place des passerelles entre pharmacie, médecine, dentaire et sage-femme, et sur dossier, etc. Donc moi, j'ai la grande question, est-ce que je suis à ce moment-là en troisième année de chirurgie dentaire, et soit je passe en quatrième année de chirurgie dentaire, soit je repasse, en tout cas j'essaye de repasser en deuxième année de médecine. Donc en gros, soit je finis mes études dans 3 ans, soit je les finis dans 8 ans. Est-ce que je me fais un plus 5 qui est toujours une mauvaise nouvelle? Et du coup, je réfléchis intensément à la médecine, à la vie, à ce que je veux faire de ma vie, à l'existence, au sens de tout ça. Et je choisis de revenir en deuxième année de médecine. Et donc, je pense que c'est assez fondamental parce qu'en fait, j'ai du coup choisi 2 fois de faire médecine. Choisi au moment du bac, puis j'ai rechoisi à ce moment-là en acceptant vraiment un sacrifice de temps assez important. Et du coup, je suis rentré avec je suis retourné en deuxième année de médecine avec une idée très haute de la médecine, du métier de médecin, et avec un caractère un peu vraiment très respectueux de ce métier et du sens qu'il avait pour moi. Donc, quand j'arrive en deuxième année de médecine, je suis un étudiant qui est conscient de la chance qu'il a d'avoir été rattrapé. Le slip, et je suis donc assez assidu, tout en profitant avec beaucoup de joie et de festivité de ces années-là.
Et alors, pourquoi tu choisis une deuxième fois médecine ? Alors, j'ai cru comprendre que la première fois, c'était vraiment cette envie de comprendre, de découvrir le fonctionnement du corps humain, et la deuxième fois, pourquoi est-ce que tu choisis médecine ?
Je me dis, je ne suis pas rassasié dans les études de chirurgie dentaire par, pour moi, ça manque de profondeur de champ. C'est une physiologie qui me passionne pas. C'est un organe que je trouve vraiment pas formidable, la bouche, enfin, qui est très bien, mais moi, ça me passionne pas. Dès qu'on a des cours un peu plus transversaux, parce que, par exemple, on nous dit, un chirurgien dentiste, c'est important qu'il ait quand même quelques notions du diabète pour pouvoir prendre en charge un patient diabétique et savoir un peu de quoi il en retourne. Donc, on a quelques cours un peu généraux. Et assez vite, on nous dit, mais là, c'est pas la peine d'en savoir plus parce que c'est plus votre domaine. Et moi, ça me frustre énormément. Je suis demandeur d'en savoir plus. Je veux en savoir plus. Et puis dès qu'on me dit bon ben là on va aller faire un TD pour apprendre à faire une prothèse totale, ben là j'ai pas du tout envie d'y aller quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Et je me dis ben mince, je suis vraiment pas en phase avec les aspirations initiales que j'avais. Ça ne me remplit pas. Et puis dans le raisonnement, je me dis mais en fait si tu continues les études de dentaire quand t'auras 30 ans, tu te diras, Ben, tu vois, mon gars, là, si tu avais fait la passerelle, tu serais médecin, ce serait fini et tu aurais atteint ton rêve. Et ce jour-là, tu le supporteras pas de pas l'avoir fait. Donc, je me suis dit, ben, faut que je le fasse. Voilà. Donc, j'ai tenté le truc et je suis revenu en médecine. C'était pas simple, mais c'est un choix que je regrette tellement pas. C'est tellement le meilleur choix de ma vie.
Donc, tu es un étudiant en médecine, heureux d'être étudiant en médecine. Et comment ça se passe, les stages, les ECN, choisir la spécialité? Comment tu vis cette période et comment tu réfléchis ton choix de ville, de spécialité?
Alors, ben moi, assez vite, j'identifie que mon projet, c'est de faire médecine générale à Limoges. Tu vois, je me dis ça relativement vite parce que dans mes stages, j'identifie pas une spécialité où je me dis oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Je fais un stage en médecine générale en quatrième année qui me conforte dans l'idée que c'est vraiment ça qui me botte dans la médecine, ce lien humain prédominant, cet aspect un peu connaisseur de tous les sujets sans être profondément investi dans un en particulier. Ça me plaît beaucoup. Et à ce moment-là, je découvre une association qui s'appelle Eloquentia, qui fait des concours d'éloquence ouverts à tous les étudiants de l'université. Et donc, je suis un étudiant de deuxième cycle très atypique, puisque, enfin, c'est troisième cycle peut-être même, non, deuxième cycle très atypique, puisque je suis pas un bûcheur. Je bosse, si tu veux, mais en me disant je veux faire médecine générale à Limoges, donc j'ai pas besoin d'être dans les 2000 premiers. Donc je fais mes heures, disons, comme un bon étudiant, mais j'en fais pas plus et je m'investis à côté dans du théâtre d'improvisation, dans cette association qui promeut les concours d'éloquence et je m'épanouis dans l'apprentissage de compétences communicationnelles et relationnelles, on pourrait dire, tout en continuant de découvrir la médecine à travers les bouquins. Mais je suis pas du tout en phase. Et je les admire beaucoup et je les respecte beaucoup, mais en tout cas, je n'étais pas dans cette attitude vraiment de l'étudiant prêt à mourir pour apprendre plus. J'étais assez calme dans mon apprentissage. Et au final, je suis allé faire médecine générale à Paris parce que je me suis dit, mais là, t'es à Limoges depuis longtemps quand même, il est temps d'aller voir autre chose, de bouger. Et Paris, c'est une ville qui est quand même très intéressante quand tu es français, de passer un peu de temps d'études à Paris. C'est pas inintéressant d'en connaître plus sur la capitale du pays. On m'avait dit, mais tu vas voir, c'est l'enfer, tu vas être dans des hôpitaux sinistrés, dans des logements tout petits. Et j'ai passé 3 ans d'internat formidable parce que j'ai eu plutôt de la chance dans mes stages. J'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai vécu des stages hyper formateurs. J'ai eu la chance d'être interne aux urgences de Lariboisière, qui est quand même un service d'urgence exceptionnel, d'être aux urgences pédiatriques à l'hôpital Robert Debré, qui est le plus grand hôpital pédiatrique d'Europe. J'ai eu une formation dont je suis très heureux et ça m'a permis en plus de rencontrer un niveau d'énergie urbain et citadin qui m'a profondément transformé puisque je me suis rendu compte qu'à Limoges, en fait, j'étais un peu en dessous du niveau d'énergie qui me faisait vibrer.
Alors, j'ai deux questions là qui me viennent. On va commencer par la première. Ça a apporté quoi de faire du théâtre d'improvisation, cette association Eloquentia, dans ta pratique médicale? Ouais, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a changé?
Ben, c'est marrant parce que l'improvisation, à la base, j'y suis allé vraiment par flemme parce que je voulais faire du théâtre et là, on te proposait de faire du théâtre sans avoir de texte à apprendre. Et je me suis dit, bah, c'est parfait pour moi, parce que j'ai pas le temps d'apprendre du texte, tout ça. Et donc, j'y suis allé vraiment, parce que j'ai vu de la lumière. Et ça a transformé ma vie, hein, parce que j'ai même fait ma thèse sur la relation entre la médecine générale et l'improvisation théâtrale. Parce que, au début, quand tu fais de l'improvisation théâtrale, t'as l'impression qu'il suffit de parler fort pour que ça marche. Parler fort, de bouger les bras et d'être le plus présent sur scène. Et puis ça ne marche qu'un temps. Et puis tu finis par rentrer dans le vrai monde de l'improvisation théâtrale quand tu comprends que l'improvisation théâtrale, c'est surtout la capacité d'écouter d'écouter ton partenaire, que l'autre n'est pas un obstacle à ton histoire, mais qu'il est une opportunité, que tout seul, tu raconterais une histoire qui serait pas la même que celle que avec qui tu joues, enfin celui avec qui tu joues, il raconterait une autre histoire, mais tous les deux, vous allez raconter une histoire que ni toi ni lui n'aurait pu raconter tout seul. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'improvisation théâtrale, et les grands improvisateurs sont des gens qui ont beaucoup d'écoute. Et donc, moi, ça m'a fait prendre conscience de l'importance de l'écoute de l'autre. Et ça, je pense que dans mon métier, ça a eu un impact vraiment très fort, parce que j'étais à ce moment-là dans les études de médecine générale, puis après dans mon internat de médecine générale. Et il y a vraiment une résonance entre les deux. On nous demande d'ailleurs, en tant qu'interne de médecine générale, ça fait partie de nos compétences à acquérir, les compétences communicationnelles et relationnelles, c'est intitulé comme ça. Et en fait, t'as aucun moyen d'apprendre les compétences communicationnelles et relationnelles, aucun moyen, ça s'apprend pas dans des bouquins. Donc on va te dire parfois, oui, non, mais il y a des gens, ils les ont, et puis il y en a d'autres, ils les ont pas, c'est comme ça. Et en fait, c'est un peu court comme raisonnement, et je suis convaincu que l'improvisation théâtrale peut être un outil merveilleux, et c'était l'objet de ma thèse, pour apprendre à communiquer et à entrer en relation avec d'autres personnes, y compris tes patients. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma pratique. Le nombre de situations que j'ai pu résoudre juste parce que je me suis dit, ben là, je vais m'asseoir et je vais écouter. Ça peut paraître assez bête parce que c'est pas très technique, c'est pas très scientifique, mais c'est vraiment fondamental, moi, dans ma vie, la transformation que ça a opéré. Et après l'éloquence, bah c'était plus ça m'intéressait, ça m'amusait, je savais pas trop pourquoi, en tout cas je trouvais ça très attirant. Et ce qui est super, c'est que aujourd'hui avec Médecins Solidaires, tout ça prend une cohérence parce que j'ai besoin de convaincre les villages dans lesquels on s'installe, de convaincre les médecins pour qu'ils rejoignent notre aventure, de convaincre les partenaires institutionnels pour qu'ils nous soutiennent. Et je pense que ça m'a aidé énormément. Donc, je suis hyper content d'avoir fait ces choix-là où j'ai écouté, en fait, à chaque fois, mon cœur et mon instinct, où j'ai fait ce que je ressentais devoir faire, sans que ce soit forcément très rationnel à ce moment-là, mais de me rendre compte que bah, plus tard, tous ces choix-là m'ont finalement guidé vers un usage total de mes compétences et de ma personnalité.
C'est hyper intéressant, l'idée de faire du théâtre pour apprendre à écouter. C'est sûr que spontanément, c'est pas très intuitif, mais je vois très bien là où tu veux en venir. Et donc ça, c'était la première question que je voulais te poser. Et la deuxième, c'est est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus cette histoire d'énergie parisienne par rapport à l'énergie qu'il y avait à Limoges?
Alors, moi, c'est des sujets délicats, on marche sur des œufs parce qu'il s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais moi j'ai une théorie sur ça. Je suis convaincu que chaque ville a une forme de fréquence et que nous, chaque être humain, on a aussi une forme de fréquence et que parfois on rentre en résonance parce qu'on est sur la bonne fréquence au bon endroit. Et donc t'as des gens vont être très heureux à Bordeaux, à Lyon, à Limoges, à Nantes, à Pau. Parce que chaque ville a sa fréquence, c'est ça. Et à Paris, t'as une fréquence qui est propre à Paris. Hein. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de monde, c'est très cosmopolite, il y a des quartiers très différents, avec des énergies très différentes. Tu prends 3 stations de métro, c'est comme si tu partais en week-end dans un autre pays, dans un autre endroit, dans un autre lieu. Tu passes ton temps à être stimulé visuellement, olfactivement, sur tous les sens. Tu passes ton temps à découvrir, à rencontrer des gens qui sont souvent intéressants. Tout à Paris est plus pimenté. Les gens pauvres sont plus pauvres, les gens riches sont plus riches, les gens méchants sont plus méchants, les gens gentils sont plus gentils. T'as vraiment des extrêmes qui sont très larges. Ça peut être très fatigant, mais quand on est un jeune étudiant, moi, ça m'a transformé mon rapport au monde. Et je suis hyper content de cette expérience-là. Au final, je suis quand même installé dans un territoire rural, hein, tu vois, donc c'est pas incompatible. Mais je suis quand même très régulièrement à Paris, notamment pour piloter le projet Médecins Solidaires, parce que c'est forcément Paris, hein, un lieu de rencontre plus facile quand il y a plusieurs acteurs dans un projet.
Et donc, tu fais cet internat parisien avec beaucoup de joie, beaucoup d'apprentissage. Et ensuite?
Bien, je finis mon internat, donc c'est quand même 3 ans. 3 ans pendant lesquels on te dit, tu vas là, tu fais ci, tu fais ça, tu vas là. Bon, d'accord, donc tu es sur ton rail et tu suis ton parcours. Tu as des obligations universitaires et facultaires qui sont quand même un peu pénibles, hein, notamment l'internat de médecine générale. C'est un internat qui est presque devenu littéraire. Hein. Les internes de médecine générale qui m'écoutent comprendront largement ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'internes de médecine générale qui sont assez mécontents de cet internat. Donc, c'est un peu difficile quand même, c'est laborieux. Et donc, quand la fin s'entrevoit, j'ai une grande question. Je me dis, mais attends, pour la première fois de ma vie, je vais être totalement libre. Je prends conscience que ça, c'est vraiment la première fois de mon existence où je n'aurai plus de compte à rendre à personne. Plus d'obligations facultaires, je suis libéré de l'autorité de mes parents, j'ai un diplôme. Je peux faire ce que je veux. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette liberté? C'est énorme. Est-ce que je vais visser ma plaque pendant 30 ans, tout de suite? Est-ce que c'est pas un peu rapide? Est-ce que t'as pas quelque chose à faire entre les deux? Et là, j'ai très envie de liberté, de découvrir des territoires. Et du coup, je décide de partir faire un tour de France des remplacements en camping-car. Donc, je loue un camping-car pendant 5 mois. Et je pars faire 10 remplacements de 15 jours dans 10 déserts médicaux en France, en faisant vraiment le tour du pays. Et c'est à ce moment-là que je bascule dans la dimension militante de la médecine générale et des déserts médicaux. C'est à ce moment-là où je me rends compte de l'ampleur du problème, de sa réalité, et où je me dis, mais je ne peux pas ne pas contribuer à essayer de changer les choses. Je peux pas rendre mon camping-car et revenir à Paris en me disant c'est terrible, il y a des gens qui ne sont plus suivis, mais c'est pas mon problème. Et c'est un peu là que tout commence à partir sur Médecins Solidaires.
Et juste Martial, je t'interromps 2 secondes.
Ouais,
quand tu prévois ton tour de France en camping-car, tu prévois un tour de France dans des déserts médicaux.
Oui.
Uniquement des déserts médicaux. Pourquoi?
Parce que j'ai toujours eu un problème avec l'idée de... Enfin, non, c'est pas que j'ai eu un problème, mais c'est que t'as pas mal de courants qui surfent sur l'attractivité des territoires, tu vois? C'est-à-dire qu'on dit, ah ouais, t'es médecin généraliste, tu peux aller n'importe où, tu peux aller à Biarritz, tu vas faire du surf, tu vas aller dans les Pyrénées faire de l'escalade, faire de la médecine, puis faire de la médecine générale 3 jours par semaine. Et puis, c'est qu'il y a pas mal de territoires qui ont effectivement une attractivité de territoire. Et je me suis dit, mais c'est hyper injuste. Il y a des territoires qui ont rien à vendre de particulier, entre guillemets. Mais dans lesquels il y a des gens qui sont pas moins nécessitants. Et moi, c'est peut-être parce que j'ai grandi dans la Haute-Vienne, qui est un territoire qui est, je dirais, modestement attractif, hein, sans vouloir plomber mon territoire, mais qui est un territoire, moi, c'est une campagne, une ruralité que j'adore, mais voilà, il n'y a pas de viticulture, il n'y a pas un patrimoine exceptionnel, c'est des territoires qui sont magnifiques, mais pas plus qu'ailleurs, je dirais. Si on reste objectif. Et du coup, moi, ça me touche un peu de me dire, mais il y a des territoires dans lesquels il n'y a rien, dans lesquels personne ne veut aller, et pourtant, c'est ça qui, à mon avis, est intéressant. Ça ne m'a pas empêché d'aller en Corse, hein, quand même, hein, je suis pas on n'est pas des bêtes, hein. Mais ouais, j'étais touché, voilà, d'aller dans la Meuse, d'aller dans l'Aisne, dans la Manche, dans le Cher, le Jura, voilà, des départements comme ça. Et puis j'étais curieux de découvrir le pays. Dès qu'on part en vacances, on peut avoir de moins en moins maintenant, et c'est heureux, mais on peut avoir tendance à immédiatement vouloir prendre l'avion pour partir loin, sinon on part pas en vacances. On se gargarise à l'étranger d'être français, très fier de nos terroirs, de nos pays, mais on ne connaît pas nos territoires, nos régions. On n'y va pas parce qu'on considère que c'est pas partir en vacances. Mais quand tu vas dans le Jura alors que tu n'y es jamais allé, mais c'est extraordinaire. vas dans le Cotentin, dans la Manche, on a des territoires, j'enfonce une immense porte ouverte, mais c'est formidable. Et je suis trop heureux d'avoir fait ce Tour de France parce que je connais pas tous les départements, évidemment, mais maintenant, ça m'arrive beaucoup plus fréquemment qu'avant dans des conversations de dire « Ah ben oui, je connais, j'y suis allé ou pas loin », voilà. Donc, je suis très satisfait de ça.
Donc, tu fais ce Tour de France des déserts médicaux en camping-car. Et au moment du retour, tu te dis, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose.
Ouais.
Et tu fais quoi alors? Comment ça se passe à ce moment-là?
À ce moment-là, je rencontre l'association Bouge ton coq, qui est une association créée par deux frères qui s'appellent Christophe et Emmanuel Brochot, et qui sont d'anciens entrepreneurs et qui, eux, militent pour revitaliser les zones rurales. Donc, ils ont vu mon Tour de France parce qu'il y a eu quelques journalistes qui se sont intéressés à ce jeune médecin remplaçant en camping-car. Et ils rentrent en contact avec moi, on échange et on s'entend très bien humainement. Et ils me disent, nous, on a envie de travailler sur la verticale de la santé, sur la question de la santé. On aime bien ce que tu fais, et on aime bien ton état d'esprit, et si ça te dit, on aimerait travailler ensemble. Et donc moi, je suis exactement au moment où je me dis, il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas trop quoi ni comment, et on commence à discuter. Et on part sur un premier projet qui était de dire, on va proposer à des jeunes remplaçants de faire la même chose que ce que j'ai fait, c'est-à-dire de développer un peu une mobilité en camping-car ou en voiture, en tout cas de créer des boucles de remplacement, des espèces de séjours à la carte où tu partirais pendant un mois, deux mois, trois mois, où on te prévoit une succession de remplacements, où on te trouve des logements, etc., on te règle les questions logistiques. On commence à bosser sur ça et puis d'un coup, je me dis, mais non, mais ça va pas du tout, c'est pas ça. Je me dis, on est en train de devenir, on s'apprête à passer beaucoup de temps pour devenir des tour opérateurs pour des jeunes médecins exigeants. C'est-à-dire que on va avoir des médecins qui vont nous dire, oui, moi je veux partir un mois, occupez-vous de tout, et puis je récupère les clés de mon camping-car et puis je veux que tout soit prêt. Et je me dis, mais en fait, si les médecins ils sont dans cet état d'esprit, ça va pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire un Tour de France en camping-car, t'as qu'à sortir ton téléphone, en deux secondes, tu l'organises. Donc, si tu n'es pas, si tu n'as pas la disponibilité et l'engagement de l'organiser toi-même, en fait, tu vas pas le vivre. Ou alors, si tu le vis, tu vas le vivre dans un état d'esprit plus consommateur que contributeur. Et en plus, on va pas avoir beaucoup d'impact parce que on ne va permettre qu'à des médecins de remplacer d'autres médecins, ce qui est déjà bien. Mais on va pas répondre à la question comment on fait pour apporter de la médecine dans les territoires qui n'en ont plus, dans les zones où il n'y a plus d'accès aux soins. Alors que c'est ça la question fondamentale sur laquelle tout le monde se bute, c'est de se dire, mais les communes où il n'y a plus de médecins, on fait quoi? Et donc, on arrête tout. Enfin, vraiment, il y a un moment très précis où je me dis, non, mais ça va pas. Et je fous le projet à la poubelle. Et là, je passe une semaine à tourner chez moi, les mains dans les poches, à marcher en rond, et à me dire, mais c'est pas possible, il y a forcément autre chose qu'on peut faire. Et je reprends un raisonnement pragmatique, et je me dis, bon, les médecins ne s'installent pas dans ces territoires isolés. Pourquoi? Parce que c'est trop d'engagement. C'est trop d'engagement, donc il faut diminuer le niveau d'engagement. Donc, il faut augmenter le nombre de médecins. Donc, puisqu'on peut pas demander beaucoup à peu, on va essayer de demander peu à beaucoup, avec une unité de temps d'une semaine, parce que un jour ça sert à rien, un mois c'est trop long, c'est trop d'engagement, mais une semaine, n'importe qui peut, s'il le souhaite, donner une semaine sans bouleverser le reste de sa vie. Et donc on parle là-dessus, Bouge ton coq me suit à fond sur cette idée. Et on se lance comme ça en novembre 2021. On commence vraiment à lancer le projet pour le structurer et on ouvre le premier centre expérimental en octobre 2022, donc moins d'un an après la genèse de l'idée.
Et donc, pendant cette période d'un an, tu te consacres entièrement à développer ce projet. Comment ça s'articule avec ton exercice de la médecine ?
Alors à ce moment-là, moi j'ai une ancienne collègue de mon père qui m'appelle et qui me dit, écoute, donc Odora dans mon village, qui m'appelle et qui me dit, écoute, moi je vais prendre ma retraite d'ici 3-4 ans, j'ai envie de lever le pied, est-ce que tu voudrais pas venir me remplacer 1 ou 2 jours par semaine? Et là, je lui dis, bah écoute, 1 ou 2 jours par semaine, ça risque d'être un peu compliqué sur le plan logistique pour moi, mais si tu veux, enfin je réfléchis, hein, évidemment longtemps, je pèse le pour et le contre. Et je me dis, bah, ça m'intéresse vachement quand même d'aller travailler dans ce village que j'aime profondément. Et je lui dis, bah, écoute, on peut essayer 1 semaine sur 2. Tu fais 1 semaine, je fais l'autre semaine, tu fais 1 semaine, je fais l'autre semaine. En me disant, bah, comme ça, je fais 1 semaine de médecine générale et 1 semaine d'entrepreneuriat associatif, et ainsi de suite. Et on commence à faire ça en novembre 2021. Et ça se passe très bien. Et donc, on fait ça pendant quasiment 2 ans. Jusqu'à là récemment où je décide du coup donc entre-temps je passe du statut de remplaçant à collaborateur où on fait ça, les patients s'habituent et puis là je change un peu de rythme où maintenant j'ai pris mon propre bureau et je fais lundi, mardi, mercredi en médecine générale rurale sur place. Jeudi, vendredi, je suis à Paris ou dans les territoires où on veut ouvrir des centres, où on a des centres ouverts, et je propose des créneaux de téléconsultation à mes patients le jeudi matin ou le vendredi matin de 8 à 10 pour rester accessible. Et donc ça marche pas mal. Les gens sont compliants, ils adhèrent à ce mode de fonctionnement, et ça me permet d'être un peu au four et au moulin de manière efficace, puis c'était important pour moi, un, il faut bien que je vive, hein, donc il faut que je travaille. Deux, j'aime quand même profondément la médecine générale, ça m'ennuierait beaucoup de ne plus l'exercer. Et trois, c'est très important dans un souci de cohérence globale, tu peux pas lutter contre les déserts médicaux et toi-même ne pas y contribuer en mouillant la chemise. Donc ça m'apparaissait évident qu'il fallait que je contribue comme ça.
Donc, médecin solidaire, c'est le jeudi et le vendredi. Et ça, moi, c'est un monde que je connais pas du tout, mais c'est du bénévolat. Est-ce que tu es un petit peu rémunéré pour ce que tu fais? Comment, quelle place ça prend finalement dans ta vie professionnelle?
Alors, ça me prend beaucoup de temps puisque finalement, tous les matins de 6h à 8h, je traite mes mails. Donc, je me couche assez tôt et je me réveille, assez tôt pour avoir le temps de traiter mes mails le lundi, mardi, mercredi parce que sinon, là, on est arrivé à un stade où je reçois, entre, 40 et 80 mails, par jour dans toutes les boucles qu'on a, tous les dossiers sur lesquels on travaille, etc. Et donc, il y a beaucoup de mails qui sont juste des mails où je suis en copie, juste pour voir, mais pour être au courant des choses. Et si je le fais pas le matin, bah en fait, dans l'après-midi, je vois mes mails tomber entre mes consultations et ça me parasite complètement. Donc maintenant, j'ai décidé que je faisais plutôt comme ça et c'est beaucoup plus efficace. Donc j'ai vraiment ce temps matinal où je prends possession des nouvelles. Après, je fais ma journée de médecin généraliste. Je me couche tôt. En termes de rémunération, et puis le jeudi, vendredi, c'est plus opérationnel, c'est plus des temps de réunion, etc. Et puis, sur le plan financier, bah, je suis défrayé de mes dépenses liées à Médecins Solidaires quand je prends le train ou quand on se déplace, etc. Et puis, ça suffit pour le moment.
Donc, c'est un mi-temps médecine générale et un mi-temps médecin solidaire.
Ouais, mais c'est 2 bons mi-temps quand même.
Deux gros mi-temps. J'ai pas précisé un mi-temps de combien d'heures.
Ouais, c'est ça.
Et dans ton activité de médecin solidaire, tu parlais d'entrepreneuriat associatif, c'est des activités qui sont absolument pas médicales, en fait. Tu t'es formé pour ça ou t'as tout découvert sur le tas? Est-ce que ça fait appel à des compétences médicales et lesquelles, en fait?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que Ce qui fait appel à des compétences médicales, évidemment, c'est toute l'expertise santé sur le fonctionnement d'un centre de santé, l'organisation interne des centres, l'articulation, tu vois, avec les médecins, le mode de fonctionnement, etc. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de compétences déjà managériales que je découvre. C'est-à-dire qu'on a 5 salariés sur place qui sont nos coordinatrices, il faut les manager. Elles ont des difficultés parfois, des questions souvent, des problèmes d'horaire, de planning, de congés. Et puis on a aussi tout un évidemment des questions administratives, financières. Et donc j'ai appris une quantité de choses monumentales en l'espace d'un an. J'en apprends tous les jours, c'est passionnant. J'adore ça. Et puis c'est aussi l'intérêt d'être dans cette aventure avec l'association Bouge ton coq, où eux, ils ont de l'expérience, ils sont dans ces questions opérationnelles, logistiques et financières beaucoup plus expérimentés que moi, et donc ils m'aident beaucoup, ils contribuent beaucoup, et c'est pour ça que l'aventure elle fonctionne, c'est parce que on a été ensemble et on a soudé nos compétences pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace. Mais tu me dirais aujourd'hui, tiens, est-ce que si tu avais un an de pause pour faire une formation, j'adorerais aller me former sur l'entrepreneuriat. Je sens qu'il y a plein de choses qui me manquent, plein de concepts qui sont des concepts déjà décrits, que moi je découvre de manière intuitive ou maladroite, mais que je pourrais aller plus vite si je savais plus de choses. Mais bon, ça, c'est la vie.
Gérer un cabinet et gérer une association, c'est pas pareil.
Ah bah non, c'est pas pareil. Parce que gérer un cabinet... Alors, ça peut aller très loin, gérer un cabinet. Parce que quand tu commences à gérer une maison de santé, que tu commences à faire des circuits de soins, etc., je pense que en tant que médecin généraliste, quand même, si tu as la fibre un peu entrepreneur, tu peux vraiment t'amuser. Tu peux aller très, très loin. Il y a énormément de choses à faire, surtout dans la situation d'aujourd'hui où il y a une pénurie monumentale, donc une demande qui explose. Donc, c'est un temps merveilleux, paradoxalement, de création, de projets, d'idées, de mise en œuvre, où tu es à peu près sûr que tout va fonctionner. Les patients, ils sont prêts à accepter un peu tous les projets tant que ça répond un peu à la demande. Et donc, moi, j'invite tous les médecins généralistes à essayer, à ne pas hésiter, à entreprendre, à inventer, même dans un échelon très local, quand tu es avec ton cabinet ou ta maison de santé, il y a plein de choses à imaginer, c'est sûr, pour répondre à cette question, comment on fait pour prendre plus de patients et organiser mieux les soins. Mais après, si tu parles de la gestion entrepreneuriale d'un cabinet isolé, où tu es tout seul en faisant des horaires simples avec un secrétariat téléphonique, ça, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat accessible à tout le monde.
Et comment tu envisages l'avenir aujourd'hui, Martial ?
Alors, pour moi, le rêve, c'est que Médecins Solidaires rentre dans le langage commun, que d'ici 5 ans, ce soit normal pour un médecin de faire Médecins Solidaires, faire une semaine de médecine solidaire. Ah bon, t'as pas fait ta semaine de médecine solidaire? C'est bizarre, parce que pourtant c'est vachement sympa, c'est hyper intéressant. En fait, si 10% des médecins généralistes du territoire participent au projet Médecins Solidaires, on pourrait ouvrir 150 centres médecins solidaires sur le territoire. Donc, 1,5 par département. Juste s'il y a un médecin sur 10 qui participe. Donc, ce serait une contribution considérable. Et donc ça, vraiment, il y a un enjeu là derrière pour moi qui est énorme, parce que tant qu'on n'a pas atteint ce chiffre-là, on a toujours du travail. Et donc l'avenir, si tu veux, il est vraiment d'essayer de monter vers cet objectif-là, en se disant qu'on est peut-être en train de découvrir quelque chose de fondamental sur l'organisation des soins primaires. En tout cas, j'en ai la conviction profonde, et que il est maintenant de notre responsabilité de le conduire jusqu'au plus loin possible, en tirant le fil le plus adroitement possible.
Mmh. Et qu'est-ce qui te rend heureux au travail? En fait, c'est très très loin de mon exercice à moi. Tu vois, moi, je suis médecin MPR, je suis salarié, je bosse dans un centre de rééducation. je suis pas du tout sur la même échelle de temps en termes de prise en charge des patients qu'un médecin généraliste, tu vois. Donc, c'est un mode d'exercice que j'ai du mal, moi, à appréhender. Mais j'ai déjà du mal à appréhender le libéral, donc si tu veux... mais je trouve... je suis fascinée, moi, par cette capacité que tu as eue de réfléchir et d'inventer quelque chose. C'est... Voilà. Et j'avais, oui, encore deux questions. J'avais envie de te demander qu'est-ce qui te rend heureux au travail ?
Alors, moi, ce qui me rend heureux au travail, vraiment dans la médecine générale, c'est que je trouve qu'on a un poste d'observation extraordinaire sur l'humanité et qu'on vit parfois en consultation sans être dans l'angélisme ou dans le mysticisme un peu idiot. Je trouve qu'on vit des instants de grâce, parfois, pas tous les jours, pas tout le temps. On vit aussi beaucoup d'instants pénibles. Mais les gens se confient à nous d'une manière incroyable. Et on a ce poste d'observation privilégié où on voit toutes les couches de la société. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de métiers où tu es un peu cloisonné dans les cercles sociaux avec lesquels tu interagis. Et nous, on voit passer d'une consultation à l'autre dans les deux extrêmes de la vie. Tu vois, entre la fin de mon internat et le départ en Tour de France des remplacements, j'ai eu 4 mois où je préparais ma thèse et j'ai fait SOS médecin à Paris. Et je trouvais ça formidable d'aller chez les gens. Je me disais, mais tu te rends compte, tous ces bâtiments que tu vois, on n'a pas la possibilité de savoir comment c'est chez les autres, chez les gens. Tu vas chez les gens, tu vas chez tes amis, chez ta famille. Donc les gens chez qui tu vas, c'est toujours des gens qui sont de ton cercle social, plus ou moins de ton niveau de vie, de ton niveau d'éducation. Mais tu vas jamais dans d'autres cercles, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Et ben là, quand tu fais médecin, SOS médecin, et que tu vas dans des appartements de gens richissimes dans le 9e arrondissement, et que juste après tu vas dans une tour en zone périurbaine, au 12e étage sans ascenseur, où il y a 8 personnes dans un appartement de 30 mètres carrés, et que tu y vas dans les deux cas en tant que médecin, tu te dis, mais j'ai une chance incroyable d'avoir accès à cette observation-là, de pouvoir comprendre mieux le monde qui m'entoure. Et du coup, tu es beaucoup plus compréhensif de la société, des écarts de compréhension entre tout le monde. Quand tu es dans la rue, tous ces gens-là, tu imagines mieux où ils habitent, ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà, moi, tout c'est ça, ce qui me rend heureux dans mon métier, c'est que je pense que ça permet de mieux comprendre le monde.
Ton métier te permet de mieux comprendre le monde. J'aime beaucoup. J'ai une question rituelle pour terminer mes entretiens. Quelle est ta tenue de travail ?
Moi, je mets la blouse. Je mets une blouse avec manches courtes, des pressions. Et je trouve ça très, très agréable parce que, c'est plus propre. Deux, ça me permet d'éviter des projections de sang ou de pu ou d'urine de petit garçon bébé que tu pèses sur la balance et qui te fait une petite surprise. Et puis je trouve que ça sépare mieux l'homme du médecin. Et donc moi j'aime bien travailler en blouse.
Je te remercie Martial de m'avoir fait découvrir Médecins Solidaires et d'avoir répondu à toutes mes questions.
Ben là, c'est vrai qu'on est parti loin. Hein. Merci à toi, Anise. Merci beaucoup.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.